Vous écoutez France Inter, il est 18h15.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir une femme que l'on présente souvent comme historienne, ce qui est bien sûr la vérité, mais une partie seulement de la vérité. Car Mona Ouzouf, qui est une de nos plus grandes spécialistes de la Révolution française et de l'histoire de l'école républicaine, a commencé sa carrière d'intellectuelle comme professeure de philosophie. Et puis, elle le confesse, elle est avant tout une passionnée de littérature. Passionnée aussi par la France, ses livres, ses récits, ses fractures religieuses et territoriales, ses antagonismes réels ou supposés qui s'opposent au sentiment national sur lequel elle poursuit toujours sa réflexion. Elle en parle d'ailleurs dans le dernier livre qui lui est consacré aux éditions Flammarion. On va évidemment en parler ce soir et puis on reviendra longuement sur son parcours débuté dans sa Bretagne natale. Un parcours qu'elle a si bien raconté dans son livre « Composition française ». Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Elissa Vuillot, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et les bonnes ondes de Sandrine Houdin ce soir, toc en truc, quand de grands chefs se lancent dans la cuisine itinérante pour les enfants malades à l'hôpital. À 19h20, au téléphone sonne, et si vous tentiez, vous aussi, d'arrêter de fumer? On en parle à l'occasion de la journée mondiale sans tabac qui a lieu aujourd'hui, car rappelons-le tout de même, le tabac c'est 75 000 morts évitables chaque année en France. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Mona Ouzouf.
Bonsoir Claire
Bienvenue
Servageant.
Bienvenue sur France Inter. C'est un plaisir de vous recevoir à l'occasion de la sortie de ce livre qui vous est consacré chez Flammarion. Son titre, Mona Ouzouf, portrait d'une historienne. C'est sous la direction d'Antoine Debecq et Patrick Deville. C'est un livre dans lequel vous vous exprimez, bien sûr, Mona Ouzouf, mais dans lequel ce sont aussi vos proches, vos amis qui parlent de vous. Antoine Debecq et Patrick Deville les ont réunis en 2016 à l'abbaye de Fontevraud, rencontre organisée par la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Alors, ce qui frappe quand on vous lit et quand on lit ce que disent de vous vos amis, c'est la longévité de ces amitiés qui ont marqué votre vie, des amitiés de plus de 60 ans et qui restent intactes.
Oui, c'est une idée d'Antoine Debecq d'avoir raconté mon parcours à la lumière de l'amitié. Des amitiés et de, je ne sais plus combien il en distingue, d'ailleurs 5 strates
Plusieurs d'amitié. Cercles, hein, il parle de cercles.
Comment ?
Il parle de cercles, il y en
oui,
a plusieurs.
Oui, des rondes d'amitié, mais voilà, des amitiés feuilletées tout au long de l'existence. Oui, c'est vrai, le premier cercle, c'est le cercle de mes amis de l'école normale supérieure, c'est le plus ancien. Celui-là date de 65 ans, oui, bien sonné. Et puis un autre cercle d'amis au lycée, dans la terminale que je partageais avec Michel Perrault, qui était prof d'histoire, Nicole Ledouarin, qui enseignait les sciences nat, et moi la philo.
Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On va repartir en arrière, c'est quoi ? En 1955, vous êtes jeune agrégé de philo, vous êtes nommé à Caen, c'est votre premier poste,
oui.
Et là, donc vous rencontrez, dans la salle des profs, Michel Perrault et Nicole Ledouarin. C'est pas rien.
Non, c'était effectivement, j'ai eu une chance folle de les rencontrer toutes les deux. Pour des tas de raisons. D'abord parce qu'elles avaient déjà des projets d'avenir intellectuel, qui chez moi étaient très brumeux. Et donc, elles m'ont aidé à les préciser. Et bon, nous avons encore des correspondances avec d'anciennes élèves de cette époque-là, qui sont bien entendu des grands-mères maintenant, mais que nous retrouvons parfois.
Et vous racontez que ce qui vous a lié à l'époque, notamment, c'est que vous étiez donc toutes les trois agrégées, mais toutes les trois aussi filles uniques. Et ça vous a rapprochées ?
Oui. Parce que nous avions des enfances tout à fait comparables, des enfances très solitaires, ce qui du reste, je pense, nous prédisposait à l'amitié. Nous avions beaucoup manqué d'amitié et de présence masculine aussi autour de nous. Donc ça a été un bonheur de les rencontrer à travers elles, leur mari. Et voilà, tout un ensemble d'amitiés dans ce lycée de province.
En tout cas, avec ces deux amis de cette époque-là, vous vous voyez toujours ?
Ah, toujours, bien sûr. Nous nous voyons beaucoup. Nous sommes allés à Caen l'autre dimanche, pas celui des élections, celui qui précédait, pour un salon du livre. Et nous y avons rencontré d'anciennes élèves, qui d'ailleurs ont failli nous faire pleurer en faisant l'évocation de nos souvenirs communs.
Alors, il y a les copines profs, hein, dont il est question dans ce livre, Madame Ozouf. Et puis, il y a les conjoints qui, eux, exercent alors l'histoire hein, de ces conjoints qui exercent au lycée de garçons. Parce qu'à l'époque, eh ben, le lycée de filles et le lycée de garçons, ben, c'était séparé.
Oh ben, bien entendu. Et nous n'avions que des élèves filles à l'époque. Bon, ce qui était probablement assez confortable, mais ce que nous trouvions détestable, de n'avoir que des filles.
Alors il y a des choses délicieuses dans ce livre qui raconte un petit peu cette époque que d'autres n'ont pas connue. Ce qui faisait le sel de l'époque, le jour par exemple, vous allez voir le film « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot. Il y a ce récit que j'ai trouvé délicieux, hein. Vous y êtes allé à plusieurs couples, les femmes en sont sorties, révoltées, les maris perplexes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là,
les maris étaient tout à fait perplexes parce qu'ils se demandaient s'ils avaient épousé des folles. Parce que, très étrangement, nous étions pourtant différentes les unes des autres, mais ce film nous avait, comment dire, enfiévrées, toutes les trois. Comme, je ne sais pas, un emblème de libération, une invitation à jeter son bonnet par-dessus les moulins, ce qui n'était pas du tout dans notre culture et probablement pas non plus dans nos aspirations. Mais ce film nous avait fait un effet extraordinaire. Et nos maris étaient presque légèrement scandalisés.
Voilà. Autre fait marquant, évidemment, de cette époque, c'est la lecture de Simone de Beauvoir, oui. qui vous a marqué, toutes.
Ah, beaucoup marqué, parce que je l'ai lu un peu par hasard, en allant à la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, travailler une dissertation de philosophie, j'ai un peu oublié laquelle. Et là, il y avait sur la table les livraisons des temps modernes, où le deuxième sexe est paru en livraisons successives. Et je n'ai fait que ça de l'après-midi, j'ai lu ça, et c'était vraiment la... Bon, la sexualité était un continent complètement englouti. C'était quelque chose dont on ne parlait jamais à la maison. Et c'était une véritable découverte. Et du reste, avec ces deux amis qui ont fait la connaissance de Simone de Beauvoir, des textes de Beauvoir dans un autre contexte, ça a eu le même effet. Oui, c'est une grande date de l'existence, même si la suite m'a fait prendre un peu de recul,
Par rapport à tout ça. Alors, différents cercles d'amis, vous l'avez dit, il y a ces amis rencontrés à Caen, mais il y a eu avant, et vous l'avez évoqué évidemment, ces étudiants en histoire que vous avez rencontrés en 1954, et là évidemment ce sont des rencontres essentielles, puisqu'il y a eu avant tout celui qui est devenu votre époux, oui. Jacques Ozouf, avec qui vous avez travaillé sur l'école, et d'ailleurs, Mona Ozouf, on l'a dit, vous avez fait de la philosophie, puis finalement vous êtes devenue historienne, c'est un petit peu à cause de lui, à cause d'eux ?
Non, c'est pas seulement à cause d'eux, c'est probablement parce que j'ai adoré enseigner la philosophie, je trouve ça merveilleux d'enseigner la philosophie en terminale, enfin au lycée, à la fin du lycée, parce qu'on traite de questions qui intéressent tout le monde. Et du coup c'est beaucoup plus facile d'enseigner la philosophie que d'enseigner l'histoire. Beaucoup d'élèves, beaucoup de classes différentes, ça n'a pas la même unité et ça n'a pas non plus la même séduction, aux yeux des élèves, du moins, que la philosophie. Donc j'ai adoré enseigner la philosophie, mais je me sentais très intimidée par l'idée de faire quelque chose de personnel, d'écrire un livre de philosophie. Oui, là, il y avait quelque chose qui me retenait. Je trouvais ça moins intimidant de décrire quelque chose en histoire. Et l'idée m'est venue, effectivement, de cette rencontre avec cette bande d'historiens qui, quand même, ont vraiment fait ce qu'ils disaient à l'époque qu'ils feraient. Ils parlaient d'écrire des livres, ils l'ont fait. Il s'agit d'Emmanuel Leroy-Ladurie, de François Furet, de Denis Richet, de Jean Nicolas, de Jacques, que j'oublie au passage, etc. Donc, je les ai rencontrés totalement par hasard. Et ils m'ont donné l'idée que je pouvais peut-être aussi écrire. Ils m'ont demandé des petits travaux qui les ont aidés un moment. Et comme ils les ont acceptés avec gentillesse et sans pousser les hauts cris, j'ai trouvé que c'était possible. Et j'ai même trouvé ça agréable.
Et voilà comment vous avez été embarqué dans l'aventure de l'histoire. Voilà. Il y a eu alors ce Jacques que vous disiez à l'instant oublié, votre époux. Oui. Avec lui, vous avez travaillé sur l'école, oui. L'école républicaine. Pourquoi l'école ? Parce que c'est très important dans votre parcours, c'est ça ?
Oh ben l'école, c'est la dette du bon élève. Et que l'école, pour moi, c'est l'échappée belle de mon enfance, parce que j'ai eu une enfance quasi claustrale entre une grand-mère qui m'a élevée, une grand-mère en coiffe bretonne, une mère qui s'est enfoncée dans le chagrin après la mort de son mari. Mon père est mort, j'avais 4 ans. Et après quoi, la jeunesse s'est déroulée dans un climat vraiment très, très sombre, parce que ma mère était...
Et l'école a été quelque chose de très important. On en reparlera,
oui,
évidemment,
oui,
de Samona Ouzouf. Donc, vous avez commencé à travailler sur l'école. Et puis ensuite, vous avez travaillé sur la Révolution. Et là, c'est avec François Furet que,
oui,
vous avez fait un très gros travail, oui, puisqu'il y a eu notamment ce dictionnaire critique de la Révolution française. François Furet, c'était un frère et un ami, c'est ce que vous dites ?
Oui, oui, c'est absolument un frère. Il nous a accompagnés, Jacques et moi, pendant toute la vie, dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Et oui, c'est quelqu'un dont le coup de téléphone quotidien me manque toujours, pour commenter l'actualité, pour faire la gazette du soir.
Alors justement, Mona Ouzouf, on va passer, comme tous les vendredis, à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Jérôme Chélius. Actualité dominée évidemment cette semaine par les résultats des élections européennes.
Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir, il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique, représentatif de l'opinion réelle du pays.
Le Rassemblement national en tête des européennes avec un peu plus de 23% des suffrages. Certes pas loin de la liste de la majorité présidentielle, moins d'un point, mais devant malgré tout, alors qu'Emmanuel Macron s'était fixé pour objectif de terminer premier. Un duel savamment orchestré par le chef de l'État que certains électeurs lui ont fait payer.
J'ai voté le RN pour dire de claquer Macron, c'est tout.
Le Premier ministre Édouard Philippe, lui, refuse de fanfaronner.
J'accueille ces résultats avec humilité. Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagné.
Et que dire quand on termine quatrième avec seulement 8,5% des voix ? Laurent Wauquiez accuse les deux premiers d'avoir étouffé LR.
Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement national contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix.
La faute au premier, sans doute, mais peut-être aussi au choix d'une tête de liste aux idées quelque peu passées de mode. Certains électeurs, et surtout électrices, ont fait payer ces idées à François-Xavier Bellamy.
Le tête de liste des Républicains est contre l'avortement. Ça me pose un problème, ouais.
Et comme c'est Laurent Wauquiez qui l'avait choisi, les hostilités ont repris chez les Républicains, comme au bon vieux temps. Alors pour tenter de pacifier ce qui pourrait très vite ressembler à un champ de ruines, les anciens sont appelés à la rescousse.
Je pense que pour Laurent Wauquiez, c'est un sacré défi. Moi, j'ai demandé la démission de personne.
Gérard Larcher, le président du Sénat.
J'ai dit simplement qu'il faut nous remettre très profondément en question.
Les Républicains ne sont pas les seuls à avoir déchanté. Avec 6,3% des voix, les Insoumis aussi ont mordu la poussière. Dimanche, Jean-Luc Mélenchon avait sa tête des mauvais jours.
Notre résultat est très décevant. Il n'est pas à la hauteur de nos espérances, cela va de soi, et encore moins de nos efforts.
Alors à qui la faute ? Clémentine Autain est la première à dégainer en osant dénoncer ce qu'elle appelle la politique du clash permanent. Suivez mon regard.
Le clash qui a clivé avec une partie de notre électorat qui ne comprend plus tout à fait quelle est la ligne du mouvement.
Juste derrière les Insoumis, la liste PS, emmenée par Raphaël Glucksmann, évite la relégation, mais son chef de file préfère accuser les autres.
Si la gauche n'était pas partie éparpillée, eh bien, il y avait moyen de contester ce match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Grand gagnant finalement dimanche soir, les Verts, avec 13,5% des voix.
Votre vote nous oblige.
Un résultat que personne n'avait vu venir. Alors Yannick Jadot se sent pousser des ailes. Prochain objectif, les municipales, avec en ligne de mire la capitale.
La question, ça va être de gagner Paris. On ira à l'élection municipale sous nos propres couleurs, bien sûr. Le but, c'est de conquérir la ville.
On termine avec une bonne nouvelle, la baisse historique du nombre de victimes sur les routes de France l'an dernier. Avec 3488 morts, 2018 est l'année la moins meurtrière jamais enregistrée. Le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe.
On a quand même épargné près de 130 vies humaines, c'est considérable.
Un bon résultat qu'il attribue aux 80 km/h. D'ailleurs, la baisse du nombre de morts s'est ralentie à partir de novembre, quand les gilets jaunes se sont déchaînés contre les radars.
Moins le respect est fort, plus on a de morts. C'est un effet des grands nombres, un effet statistique.
Et encore merci à Jérôme Chélius. Une semaine en France, toujours en compagnie de l'historienne Mona Ouzouf. Mona Ouzouf, quelque chose qui a retenu votre attention, que vous souhaiteriez commenter ?
Oui, je pense que... Enfin, les européennes, pour dire un mot des européennes, je pense que les gens de ma génération sont extraordinairement attachés à l'Europe. Et même si elle est une construction maladroite, parfois fautive, etc., ils y tiennent. Et du coup, j'ai été à la fois un peu réconfortée par les chiffres de la participation, en me disant que voilà, l'Europe retrouvait un peu de... Oui, que les Français retrouvaient un peu d'intérêt pour cette chose magnifique qui nous a quand même garanti la paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais, bon, cette satisfaction brève a été vite un peu ternie par le fait qu'on est retombé dès le lendemain dans l'interprétation politicienne des résultats. Et là, ce que je viens d'entendre, ces résultats ne sont pas tellement... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout étonnantes. Le chiffre de Marine Le Pen est conforme à ce qu'elle a déjà fait aux élections européennes. Le chiffre des écologistes, on sait qu'aux élections européennes, les écologistes font un bon score. Voilà. Mais en revanche, toutes les interprétations politiciennes qui se sont succédées, que vous avez rappelées, là, me paraissent oublier très vite l'enjeu.
Un petit mot de vos engagements politiques, Mona Ouzouf, juste pour un rappel, vous avez été au Parti communiste, hein, entre 52 et 56.
56. Hein. J'ai fait le stage de jeunesse que ma génération a fait au Parti communiste.
Sans regret?
Non, sans aucun. Pour tout vous dire, je trouve pas que ce soit ce que j'ai fait de plus intelligent dans l'existence, hein, sûrement pas. En revanche, il me reste des fidélités amicales de ce temps-là, et il me reste aussi quelque chose que je reconnais toujours au Parti communiste, c'est qu'à l'époque, le Parti communiste m'a fait rencontrer des êtres que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer ailleurs, et qui étaient des êtres d'une très très grande qualité et d'une grande générosité. Voilà. Donc non.
Donc vous prenez le meilleur, hein. Mais ça vous ressemble.
Ben j'essaie.
Voilà. Alors demain, Mona Ouzouf, ce sera l'acte 29 du mouvement des Gilets jaunes, sachant que la mobilisation faiblit de samedi en samedi. Dimanche, il y aura également à Paris une marche à l'appel d'un collectif de blessés, des personnes mutilées lors de précédents rassemblements, qui dénoncent l'attitude des forces de l'ordre. Et cela alors que le procureur de Paris, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 18h, le procureur Rémy Heitz affirme que les policiers auteurs de violences envers les Gilets jaunes seront jugés. Il préfère parler, ce procureur, de violence illégitime plutôt que de violence policière. Je vous propose deux témoignages qui ont été recueillis par Sandrine Houdin. C'est une rediffusion. Deux femmes qui iront manifester dimanche alors qu'elles n'osent plus participer au rassemblement des Gilets jaunes depuis qu'elles ont été blessées. Vanessa et Vitalia ont 34 et 46 ans. Elles sont traumatisées par ce qui leur est arrivé l'hiver dernier.
Le 15 décembre 2018, j'ai été manifestée avec trois amis et j'ai manifesté à peine 20 minutes et je me suis fait tirer dessus par un LBD 40 au niveau de l'arcade.
Pourquoi ?
Il se passait rien, on était moi et mes trois amis, on se tenait la main, on est arrivé devant une grande barre de CRS. On s'est dit, on reste pas trop longtemps, on fait demi-tour. On s'est donné la main, on a fait demi-tour et là, il y a une équipe de la BAC qui est arrivée sur le trottoir et qui m'a tiré à 5 mètres en plein visage. J'ai eu toute l'arcade cassée, j'ai des trous dans la rétine, dans le nerf optique. Je ne vois plus de mon œil et je ne vois que des couleurs. J'ai eu un décalement de 4 mm de la mâchoire et j'ai trois plaques en métal dans le visage qui font que j'ai un visage humain, sinon j'étais complètement déformée. La première fois que je me suis vue dans le miroir au bout de 3 jours, j'ai pleuré et je me suis dit qu'il fallait que je disparaisse parce que j'étais méconnaissable, on aurait dit Quasimodo.
Et vous, qu'est-ce qui s'est passé ?
Moi, c'était le 5 janvier à l'acte 8. On m'a tiré dans la tête à 30 mètres avec un flashball, donc j'ai une triple fracture du visage.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
Bah rien. Il y avait un feu de poubelle sur les champs. Les policiers sont venus l'éteindre et après, ils nous ont poussés dans une petite rue, les CRS, et la BAC est arrivée dans une autre rue et a tiré sur tout le monde. Depuis, j'ai plein de problèmes de santé, j'ai comme Vanessa, j'ai des problèmes d'attention, j'ai beaucoup de problèmes pour rester debout sur mes jambes longtemps.
Toutes sortes de séquelles.
Oui.
Le plus dur, c'est déjà d'accepter que quelqu'un nous ait tiré dessus. J'aurais fait quelque chose, jeter un caillou ou insulter un policier, à la limite, Mais là, je faisais rien. Je tenais la main de mes amis et ils ont détruit ma vie.
Vous en voulez à qui, à quoi ?
Moi, c'est pourquoi on m'a tiré dessus. C'est ça la question, parce qu'on m'a tiré dessus. Depuis quand, en France, marcher dans la rue mérite un coup de flashball ? On n'a pas d'armes, on ne tire pas sur les policiers, on ne les agresse pas. Donc, à quel moment ils décident d'utiliser une arme contre nous ? En 2019 ?
Pour se défendre.
Pour se défendre de quoi ? Je tenais la main de ma copine, donc je pense pas que deux petites blondes qui se tiennent la main, on soit agressive envers les policiers. Il n'y a pas eu une insulte, pas un geste, rien, il ne se passait rien, c'était bon enfant. Donc, ils m'ont tiré dessus en plein visage. En plein visage, c'est interdit. En plus, donc ça suffit.
On n'est plus du tout dans le maintien de l'ordre. On est plutôt dans le maintien au pouvoir, en fait. La répression n'est pas du tout proportionnée et légitime en quoi que ce soit.
C'est pas les casseurs qui finissent avec un coup de flashball dans la tête, ce sont les pacifiques. Quand on est manifestant pacifique, on doit rentrer chez nous tranquillement. Pas avec un œil en moins, une main en moins, une cuisse en moins.
Moi, je pense que c'est une entreprise aussi de terrorisation psychologique. On tire sur une personne et ça atteint 50 personnes autour, puisqu'effectivement, moi, je conseille à personne de retourner en manifestation.
Vous ne faites plus de manifestation de gilets jaunes ?
Ben non.
Pourtant, le 2 juin, vous allez devoir aller manifester.
Alors, c'est pas une manifestation, c'est une marche de blessés. Maintenant, il est temps de dire stop. Il faut reconnaître les violences policières et il faut reconnaître qu'il y a des victimes. Nous ne sommes pas en guerre, nous manifestons. On va juste dans la rue lui dire stop.
Voilà, marche des mutilés, ce sera dimanche, demain, samedi, donc peut-être la suite de la mobilisation. Mona Ouzouf, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue d'historienne sur ce mouvement des Gilets jaunes qui a surpris beaucoup de monde depuis 6 mois. Certains ont parlé de révolution, enfin ont évoqué la révolution. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Écoutez, il y a des ressemblances entre la révolution et le mouvement des Gilets jaunes. Pour aller très vite, il y a une révolte fiscale au départ, ce qui est le cas aussi pour la Révolution française. Il y a aussi au départ dans la Révolution française le sentiment que la société est bloquée. Quelqu'un comme Barnave, par exemple, dit « tous les chemins nous sont fermés ». C'est une phrase que pourraient dire les Gilets jaunes. Et il y a aussi le sentiment du mépris, la cascade de mépris dont les hommes de la Révolution parlent. Donc il y a des choses qui, au départ, sont absolument, font écho à ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous découvrons avec les Gilets jaunes ce que je pense beaucoup de gens ont découvert dans la Révolution française, qui est le côté explosif du ressentiment. Le ressentiment comme passion explosive. Donc il y a ça, et puis il y a aussi, c'est probablement beaucoup plus profond, il y a au départ le même doute à l'égard de la représentation. Et c'est particulièrement étrange dans la Révolution française qui invente la démocratie représentative et qui la conteste à la fois. C'est-à-dire que dès le début, les délégués des États généraux arrivent à Versailles avec des revendications particulières de leur commune, de leur paroisse. Quelques semaines après, ils se transforment en Assemblée nationale. Ils ne sont plus les mandataires de leur terroir, mais les représentants de la nation tout entière. Autrement dit, la Révolution a rompu avec le mandat impératif et inventé la représentation. Mais très vite surgit l'idée que choisir des représentants, c'est extraire de la masse une catégorie savante, particulière, et que donc il y a un écart qui va très vite se révéler difficilement supportable. D'où le problème qui est toujours celui des Gilets jaunes, et qui est le nôtre. Aujourd'hui, comment faire pour que les représentants restent fidèles aux représentés ? Comment faire aussi pour protéger ces représentants de la vindicte populaire ?
Alors, il y a les Gilets jaunes, et puis alors il y a eu les cahiers de doléances, il y a eu le grand débat national, c'est tout un vocabulaire qui est revenu. Mona Ouzouf, on a l'impression qu'il y a toujours une façon de glorifier, au moins dans les termes, la révolution. Il y a une nostalgie révolutionnaire dans notre pays ?
Nostalgie, je ne crois pas. Je ne crois pas que les Français soient prêts à refaire une révolution. En revanche, ils ont gardé du grand événement, quand même, le grand événement qui a fendu notre histoire en deux et qui a beaucoup marqué l'identité nationale. Ils ont gardé des mots et des images, des emblèmes et des images. Les emblèmes, la nécessité, par exemple, de se singulariser par le vêtement. En ce sens, les gilets jaunes, c'est une... Bon, ça n'est pas les bonnets rouges, mais c'est aussi une marque...
Un signe distinctif,
C'est un signe distinctif. Ils ont gardé un vocabulaire. Les gilets jaunes parlaient de guillotine. Et voilà, ils ont gardé aussi de la Révolution française une radicalité, une immédiateté, une méfiance à l'égard de toutes les médiations, que ce soit les médiations des députés, que ce soit les médiations des médias. C'est assez extraordinaire que le soupçon et la défiance aient gagné aussi les journalistes.
Et c'est ce que vous dites dans ce texte qui est dans ce livre publié chez Flammarion, dans lequel vous vous interrogez sur la crise du sentiment national. Vous dites on vit dans une société de solitaires méfiants.
Oui. Oui, on a une société de défiance généralisée. Du reste, les Gilets jaunes l'ont illustré en refusant d'avoir des représentants. Et en refusant au moins de tenter de donner un peu une unité à leurs revendications parcellaires. Tout ça a paru immédiatement, grevé d'une défiance ou d'un soupçon.
Et pour vous, ça participe de cette crise du sentiment national?
Évidemment, parce que comme le problème que nous avons depuis la Révolution française et depuis Rousseau, c'est comment faire une société si nous sommes des individus. Or, nous sommes désormais des individus. L'individualisme a triomphé. Mais du coup, nous sommes en présence d'un problème énorme, qui est un problème de comment faire vivre le collectif, comment accepter l'autorité. Toutes les institutions qui étaient autrefois des institutions de surplomb, l'Église, l'école, la famille, toutes ces institutions ont perdu leur poids d'autorité. Donc oui, société de méfiance généralisée.
Voilà, et on en reparlera évidemment tout à l'heure, Mona Ouzouf, puisqu'on s'intéressera aussi à la question de la diversité qui est si compliquée en France et on essaiera de comprendre pourquoi.
Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Le vieux monde sans la poussière. Dernière ruade. Et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade. Redis-nous ton beau discours. Sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade. Tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents.
Alex Baupin, Cours, camarade, choix musical de Djoubaka.
Le 18-20. Claire Servageant.
Mona Ouzouf, on va parler un petit peu de votre parcours dans la petite enfance. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, vous l'avez longuement raconté dans un livre qui est très personnel, qui s'appelle Composition française, qui date d'il y a 10 ans, mais que j'encourage tout le monde à lire ou à relire. Vos parents étaient instituteurs, vous êtes né dans le Finistère. Le drame de votre vie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la mort de votre père alors que vous n'aviez que 4 ans. Il a été emporté par une infection en en deux jours, à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques. Et là, votre mère a sombré dans la tristesse et vous, dans la solitude. Vous avez grandi dans l'école où votre mère enseignait et votre grand-mère a eu une place très importante puisqu'elle est venue vous rejoindre, elle est venue habiter avec vous. Et sachant que votre père, lui, avait été militant du mouvement régionaliste breton, que vos parents vous parlaient à cette époque-là, breton, en breton à la maison, c'est votre grand-mère qui vous a parlé en français ?
On peut pas dire ça comme ça. C'est ma grand-mère qui faisait vivre la France à la maison de manière assez paradoxale, puisqu'elle parlait le français de façon approximative, qu'elle avait appris à lire et à écrire très tard.
À 24 ans, c'est ça ?
À 24 ans, oui, pour ne pas avoir recours à l'écrivain public du village pour quand elle écrivait à son mari marin parti sur les flots, etc. Voilà. C'est une enfance passée à la maison dans la particularité. Et oui, et dans dans le charme de la diversité. Et puis, de l'autre côté de la cour, à 4 mètres du logement de l'instituteur, c'est l'école, et l'école est le lieu de l'universalité. Et le lieu où la particularité est bannie. Et où on doit déposer au seuil de l'entrée à l'école tout ce qui vous particularise, le métier de vos parents, vos particularités de tempérament. Il n'y a qu'une chose qui existe, c'est le mérite. Là, le mérite répartit les êtres, mais c'est la seule chose qui les répartisse. Le reste est glorieusement ignoré. Donc, difficile de vivre à la fois un pied dans la particularité revendiquée, comme une gloire par la maison, dans l'universalité également revendiquée. Et puis il y a un troisième lieu qui est l'Église et qui conteste chacun des autres univers. L'Église parce que j'appartiens à une famille laïque et donc l'Église conteste la maison et elle conteste aussi l'école puisque l'école que je fréquente n'est pas celle où l'Église envoie ses fidèles.
C'est là que vous êtes confronté en fait aux premières fractures.
Oui.
Des fractures qui continuent d'exister, même si ce ne sont pas forcément tout à fait les mêmes aujourd'hui.
Oui, les fractures continuent d'exister, mais disons qu'il y a une manière peut-être de vivre les appartenances sans pour autant les vivre comme un déchirement.
Mais pourquoi la France a tellement de mal avec faire de la place à la diversité, Mona Ouzouf ?
Oh, mais ça peut s'expliquer très bien quand même par l'histoire. C'est que la Révolution française, c'est quoi ? C'est la substitution à un roi personnel qui donne donc à la nation une unité charnelle. La nation d'Ancien Régime n'a pas beaucoup besoin de penser à son unité. Le roi assure dans sa propre personne cette unité. Une fois ce roi décapité, il faut bien remplacer le roi par une entité aussi une et aussi indivisible. Donc il y a il y a en France une sorte d'obsession de l'unité, de méfiance à l'égard de la diversité des opinions qui vient de ce caractère violent, radical de la Révolution française.
Voilà, un pays où on adore débattre, on adore s'opposer. Pour en revenir à votre parcours, Mona Ouzouf, vous adoriez l'école, vous avez écrit l'école, c'est sa merveille, s'ingénie à nous rendre pareil. Vous avez fait un parcours sans faute, vous êtes parti ensuite à Saint-Brieuc quand vous êtes entré en sixième, puis il y a eu Hippocagne à Rennes, il y a eu Cagnes à Paris, il y a eu l'école normale supérieure, l'agrégation de philosophie. Vous êtes devenue ensuite enseignante, directrice de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Mais ce qu'il faut dire, Mona Ouzouf, vous avez commencé par la philo, vous avez fait de l'histoire, et vous avouez que, en fait, peut-être votre véritable passion, c'est la littérature.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'aurais probablement voulu faire l'agrégation des lettres classiques si j'en avais été capable. Mais j'en étais pas capable, parce que les humanités n'étaient pas... J'ai eu des professeurs de français absolument magnifiques au collège Ernest Renan à Saint-Brieuc, c'est-à-dire jusqu'à la terminale, mais je n'ai pas fait des... Mais les humanités n'étaient pas extraordinaires. En tout cas, j'avais un niveau en langues anciennes tout à fait insuffisant pour prétendre me hisser jusqu'à l'agrégation.
En tout cas, vous avez eu l'amour de la littérature, vous avez été critique littéraire au Nouvel Observateur, vous êtes toujours membre du jury du prix du Fémina,
voilà.
Et vous dites de la France que c'est une patrie littéraire.
Oui. Oui, je pense que la France se défie. Il y a beaucoup de manières de définir la France. On pourrait la définir aussi comme le pays des femmes, par ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais comme patrie littéraire, sûrement, parce que la France est quand même le pays où, comme disait Mallarmé, tout aboutit à un livre. Il y a une révérence à l'égard de l'écrit qui est, je crois, tout à fait particulière à notre pays.
Et dans votre cas très précis, Mona Ozouf, pourquoi cet amour de la littérature ? Parce que ça, la littérature accompagne, la littérature console ?
La littérature adoucit la vie. Oui, elle adoucit la vie. Il y a une phrase de Flaubert que je cite de travers, mais qui me revient à l'esprit, où Flaubert dit que la vie est en elle-même quelque chose de si abominable qu'on ne peut la concevoir ou la vivre, je ne sais plus, sans de grands accommodements. Et la littérature est le lieu des accommodements.
Ah ben nous aussi, figurez-vous qu'on essaye d'adoucir la vie dans cette émission tous les vendredis soirs, grâce aux bonnes ondes de Sandrine Houdin, et on y arrive. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, on va à l'hôpital pour le meilleur et pour le pire, si je puis dire. Le pire, c'est qu'il s'agit d'enfants malades. Le meilleur, c'est ce food truck gastronomique que l'association Tout le monde contre le cancer vient de relancer sur la route des hôpitaux de France.
Des hamburgers de luxe que les enfants malades vont dévorer avec papa, maman et les frères et sœurs. Guillaume Gomez, Pierre Gagnère, Thierry Marx, Marc Vera, 26 chefs ont accepté de quitter une journée la cuisine de leur grand restaurant pour celle d'un petit camion et pour cause. Leurs étoiles, vous allez voir, c'est dans les yeux des gamins qu'ils vont les retrouver.
Et alors, c'est dehors que cela se passe, c'est-à-dire pas dans la chambre ?
Alors voilà, c'est dehors, comme s'ils quittaient l'hosto pour aller au resto, ça ne change pas le goût du hamburger, mais psychologiquement, ça change tout.
Ce resto ambulant a été baptisé Toc en Truck. Vous étiez à l'une de ces étapes sur le parking de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Au fourneau ce jour-là, Benjamin Brial, chef du restaurant de l'hôtel Lutetia à Paris.
On le repère de loin avec ses tables et ses parasols de toutes les couleurs. On dirait presque un petit restaurant de plage.
Ah, j'aime pas l'oignon là qui est en tout.
T'aimes pas l'oignon? Bah, ça va être compliqué de tout enlever. Il restera plus rien sinon. Attends, t'as pas une serviette, Magali, s'il te plaît?
Tu as quel âge?
6 ans.
Apparemment, tu aimes les hamburgers. Hein?
Oui.
Tu manges ça et après, c'est bon.
Merci.
Je pense qu'elle a envie de dévorer son hamburger.
Vous trouvez ça comment l'idée de ce food truck, toc en truc?
C'est super. Elle est surtout focalisée sur son hamburger et elle pense pas à sa chimio qui est pourtant branchée juste derrière elle. Voilà. Comme si de rien n'était.
Est-ce que tu sais que c'est un grand chef qui t'a fait le hamburger?
Oui. Il prépare très vite.
Est-ce qu'il est meilleur qu'ailleurs?
Oui, plus bon que McDo.
Papa se régale aussi. Hein? Est-ce que papa est gourmand?
Oui.
Chut, tu peux le dire. T'as l'air heureuse en tout cas, Stella.
Ah oui.
Je vais avoir deux saignants, s'il vous plaît.
Alors Benjamin, qu'est-ce que c'est que ces hamburgers de luxe?
On a un condiment un petit peu magique là. Savora, sauce Savora, olive noire et avec le radis noir.
Quand vous les voyez là tous, ça vous fait quoi?
Bah, c'est beaucoup d'émotions. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'être parmi les enfants et les familles aujourd'hui et de cuisiner pour eux. C'est vraiment un moment de partage unique et une expérience unique.
Mélanie Hamot, la chef de projet.
Des repas en famille, à l'hôpital il y en a très peu. C'est pas grand chose hein, un burger, hein. Ça paraît un peu futile. Hein. Mais vous vous rendez pas compte, il y a des enfants qui mangeaient plus. Et puis vous avez des infirmières qui viennent vous voir avec la larme à l'œil en disant bah, il a mangé son burger intégralement. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve avec papa, maman, les copains, les copines. Voilà, c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête à l'hôpital.
C'est important aussi pour les frères et sœurs, j'imagine.
Alors, on a un petit livre d'or, là. Et j'ai des messages de parents, bien sûr, très touchants, mais aussi de frères et sœurs. J'ai une petite fille, je me souviens, qui n'avait pas osé le dire, mais qui l'avait écrit, qui avait dit merci pour m'avoir donné ce petit moment avec papa, maman et mon frère qui est malade.
Et du côté des chefs, alors?
Je pense qu'un chef qui cuisine un burger dans un food truck à un hôpital et qui voit un enfant qui ne mangeait plus depuis des semaines, ou qui retrouve le goût grâce à ce qu'il cuisine, pour un chef, c'est ce qui est quand même de plus beau. Plus que les étoiles.
Bah, moi, je prends du bonheur à procurer du bonheur aux gens. C'est ce qu'on fait au quotidien, mais là, d'autant plus sur un enfant. Enfin, moi, en tant que papa également, pour moi, c'est un peu revenir à l'essentiel, quoi.
Tu peux me passer des petits chips, Mel, s'il te plaît? Votre petit burger.
Merci.
Dis donc, tu peux plus parler avec tout ce hamburger dans la bouche, là? Est-ce qu'il est bon, au moins?
Oui. Parce qu'à l'hôpital, les plats, moi, je les aime pas trop.
Genre?
Les pâtes, moi, je les aime pas trop.
Pour maman et le saignant pour papa. Merci.
Vous, madame, vous n'avez pas l'habitude de manger des hamburgers comme ça en famille dans l'hôpital?
Ah non, on mange plus ensemble une fois que notre enfant est à l'hôpital, quoi.
Voilà, monsieur. Tu veux boire quoi, toi? De l'eau?
Et vous, en tant que maman?
Bah, c'est beaucoup plus sympa que les plateaux repas de l'hôpital, quoi. Petite table, les parasols, les petits ballons, les machins, c'est vraiment génial. On se croirait vraiment au camping, sur la terrasse du bungalow.
Ça veut dire que la perfusion, là, vous la voyez même plus?
Voilà, c'est ça. En fait, quand on est dans le service, dans la chambre, on est constamment dans la maladie, en fait. Que là, en dehors, on n'y pense plus, on va dire, pendant allez, 30 minutes, une heure.
Et ça, c'est précieux, ne serait-ce que 30 minutes, une heure.
Ah ouais, carrément. Carrément, c'est vraiment précieux, ouais. En plus, moi, je dors avec lui dans la chambre, donc en fait, avec la maladie, 24 heures sur 24. Voilà. Sortir du contexte, être hors de la chambre, hors du service, déjà rien qu'être hors du service en fait. Même s'il y a encore ce pied à perf, les machines et tout, mais on se rend même pas compte qu'on est sur le parking de l'hôpital en fait.
Alors Alicia, toi, t'as déjà quasiment fini ?
Oui, c'était très bon.
Le petit là-bas de l'autre côté me disait ça change un peu de ce qu'on mange à l'hôpital.
Oui, bah parce que déjà on n'est pas enfermé dans une chambre et être tous ensemble c'est bien.
Il n'y a pas beaucoup d'endroits à l'hôpital où on peut sortir et voir le soleil et tout, du coup c'est chouette que ça soit dehors. Puis c'est bon, ça vient juste d'être fait en plus, c'est tout frais. C'est bien.
Vous avez goûté le hamburger ?
Non, ils sont en train de nous les cuire.
C'est trop bien.
Le personnel soignant, c'est pas les mêmes là ?
Non, du tout. Ils sont bien avec les parents. Bah, ils sont super. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais...
C'est vrai. Il n'y a pas de blouse blanche, là. Ils sont libres, là, comme dans la rue.
Comme si de rien n'était, me disent-ils.
C'est une bonne thérapie, ça. Ça vaut certainement certains traitements. C'est beau.
Voilà, 26 étapes au total pour ce camion itinérant des grands chefs. Vous trouverez toutes les informations sur la page des Bonnes Ondes de Sandrine Houdin sur franceinter.fr. De quoi adoucir la vie quand elle est dure, Mona Ouzou, cette initiative.
Oh, c'est magnifique.
Alors, vous nous disiez qu'évidemment, la littérature adoucit la vie. Il y a la poésie aussi, Mona Ouzou. J'ai découvert que vous faisiez partie d'un club de poétesses, des poétesses.
Oh non, pas de poétesses, de récitantes.
De récitantes de poésie.
Oui, c'est vrai. Hein ?
Vous réunissez et vous apprenez des poésies, vous les récitez.
Voilà.
Alors du coup, nous, on a quand même de la suite dans les idées. Et on vous a demandé si vous étiez d'accord pour nous réciter un poème, pour terminer cette émission. Et vous avez dit oui, alors on va se faire ce petit plaisir. Quel poème, Mona Ouzou ?
Oh, j'ai choisi un poème bref, évidemment. Et j'ai choisi un petit poème de Clément Marot, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Au bon vieux temps ».
C'est un poète du début du... De quelle époque ? 16e siècle. Et qui s'appelle ?
Au bon vieux temps.
Au bon vieux temps. Et alors, on va vous écouter, Mona Ouzou.
Au bon vieux temps, un train d'amour régnait qui, sans grand art ni don, se démenait. Si qu'un bouquet donné d'amour profonde s'était donné toute la terre ronde, car seulement au cœur on se prenait. Et si, par cas, à jouir on venait, savez-vous bien comment on s'entretenait ? 20 ans, 30 ans, cela durait un monde au bon vieux temps. Or est perdu ce qu'amour ordonnait, rien que pleurs fins, rien que changes on est. Qui voudra donc qu'à l'amour je me fonde ? Il faut, premier, que l'amour on refonde et qu'on la mène ainsi qu'on la menait au bon vieux temps.
Merci Mona Ouzou, c'est un beau cadeau que vous nous faites là. C'est tellement rare aujourd'hui d'entendre de la poésie. J'ai l'impression parfois qu'on a un peu peur de la poésie dans ce pays.
Vous croyez ?
Écoutez, on est un peu frileux dans ce domaine. En tout cas, je remarque que vous avez choisi un poème qui parle d'amour.
Oui.
Hein, qui parle des relations entre les hommes et les femmes. Tout à l'heure, vous nous disiez, la France, c'est le pays des femmes. C'est quoi ? C'est un pays, vous avez toujours dit, dans lequel les relations entre les hommes et les femmes sont des relations apaisées.
Oui, enfin, je dis ça surtout parce que les témoignages des voyageurs étrangers en France, très tôt, dès le 16e, 17e, ça traverse les siècles, c'est le témoignage de la visibilité des femmes. En France, la France est le pays des femmes. Hume, le philosophe écossais, le dit. Quantité d'hommes de lettres étrangers le disent dès qu'ils ont mis le pied en France. Et ça donne une clé pour certaines choses. Par exemple, notre réaction par rapport à la burqa, qui est l'invisibilité absolue de la femme. On ne voit pas la femme. On ne voit qu'un sexe, finalement. Et donc, il y a une sorte d'obscénité dans la burqa. Bon, puisqu'on ne sait rien de l'individu qui est sous ce linceul, on ne connaît qu'une chose, c'est le sexe. Et donc je crois que la véhémence des réactions françaises à l'égard de quelque chose comme la burqa, par exemple, dit cela. la France est le pays où les femmes sont visibles.
Merci beaucoup Mona Ozouf d'avoir passé cette heure avec nous. Je renvoie à ce livre publié chez Flammarion, Portrait d'une historienne, ce qui encore une fois est un terme beaucoup trop restrictif pour parler de vous, mais bon, on a mis tous les bémols qu'il fallait. Puis il y a toujours Composition française que vous trouvez chez Folio, que je recommande à tout le monde sur votre parcours. Merci mille fois.
Merci à vous.
Mona Ozouf. Dans un instant, le journal de 19h, on se retrouve juste après pour le téléphone sonne à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. On se demandera notamment comment faire pour arrêter de fumer. Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000.